Tu es bon, Seigneur. Tu es plein de bienveillance envers chacun de nous. Et ce culte, Seigneur, que nous avons ce matin, est une fois de plus une manifestation de ta bienveillance envers nous. C'est parce que, Seigneur, tu es bon, tu es bienveillant. C'est parce que tu nous aimes, Seigneur, que tu as permis que nous puissions être là ce matin, ô Dieu. Seigneur, nous rassembler en toute liberté devant toi, autour de toi, afin, ô Dieu, de communier avec toi, afin de nous réjouir en ta présence, afin de nous rassasier de ton image. Merci pour tout, Seigneur, pour toutes ces prières qui sont montées vers toi, pour cette expression dans la louange et dans l'adoration. Merci, Seigneur. Nous voulons maintenant te prier, ô Dieu, de nous faire du bien par ta parole, que tu puisses déposer dans nos cœurs, ô Dieu, dans nos pensées, dans nos sentiments, quelque chose qui vient de toi, quelque chose qui va transformer notre vie, qui va la métamorphoser, Seigneur, à la louange et à la gloire de ton nom. Merci de bénir et de fortifier ton serviteur, Seigneur, d'en faire simplement, ô Dieu, un outil pour la croissance, pour, Seigneur, l'encouragement, pour la bénédiction de ton peuple. Bénis chacun de nous, Seigneur, alors que nous nous apprêtons à écouter ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Veuillez vous rasseoir. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon. Alléluia. C'est parce qu'il a été bon envers tout ce couple qui sont là qu'aujourd'hui, eh bien, ils peuvent se tenir devant lui, l'homme comme la femme, pour non seulement recevoir de l'Église qui est donc dépositaire de valeurs du royaume des cieux, quelque chose d'encouragement, eh bien, mais aussi, ils sont là devant pour dire merci au Seigneur de les avoir soutenus dans leurs 50 ans de vie commune, dans leurs 45 ans de vie commune, 35 ans de vie commune, etc. Donc, c'est parce que le Seigneur a été bon. Et comme je vous l'ai dit, nous allons parler du mariage et en particulier de l'amour conjugal. Il est rare qu'il soit question du mariage dans une cérémonie comme celle-ci, enfin dans un culte comme celui-ci, mais le mariage reste un des grands thèmes de la parole de Dieu. Je crois que par le temps qui court, par le temps qui passe, eh bien, l'Église se doit de donner un enseignement clair sur le mariage, afin que les uns et les autres comprennent que le mariage ne sera jamais, mais alors jamais, une institution démodée et ne pourra jamais être remplacée par n'importe quel mode de vie à deux, que ce soit la cohabitation libre, que ce soit le tripotage affectif ou autre. Le mariage reste singulier et unique. Alléluia. C'est Dieu qui l'a prévu. Et ce, pour le bonheur de l'homme et de la femme. Nous allons donc parler de l'amour conjugal. Essayez de nous poser s'il est encore possible aujourd'hui, au XXIe siècle, alors que nous vivons dans une société en pleine décadence morale, dans une société où tout se délite, est-il encore possible de pouvoir aimer quelqu'un et de partager sa vie jusqu'à ce que la mort intervienne? Est-il possible de rencontrer un cœur qui va se donner à l'autre dans une fidélité partagée, dans un amour inconditionnel, désintéressé, et vivre pleinement le bonheur après lequel chacun de nous soupire? Eh bien, c'est possible à toutes ces questions. Nous répondrons par oui, car celui qui a institué le mariage est aussi celui qui veut nous aider à réussir notre mariage. Alléluia. Le problème se situe à ce niveau-là. Voyez-vous, nous essayons de vivre le mariage par nous-mêmes, en essayant de nous battre, vaille que vaille, etc. Et pour beaucoup, au bout d'un certain temps, on est fatigué et on n'en peut plus, et le divorce intervient, hélas. Nous allons lire donc dans Éphésiens chapitre 5, nous allons lire les deux premiers versets, et puis ensuite nous irons au verset 22. Éphésiens 5. Soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et marchez dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Verset 22, « Femmes, soyez soumises chacune à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent en tout, chacune à son mari. Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui une Église ou cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais une Église sainte et sans défaut. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Amen. J'aurais aimé entendre un amen. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Vous pouvez tirer la conclusion. Quand on n'aime pas sa femme, donc, et là on va tout droit à sa propre destruction. Jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Eh oui, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. Gloire au Seigneur. L'amour conjugal, nous le savons tous, l'amour reste le plus grand besoin de l'humanité. L'homme a été fait à l'image de Dieu, a été fait à sa ressemblance. L'homme, eh bien, a besoin d'aimer et en même temps de se sentir aimé. Alléluia. L'homme ne peut pas vivre sans amour. L'amour reste l'oxygène du royaume des cieux, mais l'amour reste également, mes amis, le vrai carburant en ce qui concerne la vie conjugale. Lorsqu'il n'y a plus d'amour, eh bien, quoi qu'on partage le même toit, un jour, tout finira par tourner en vrille, tout finira par se détruire. Donc, il y a moyen de vivre et d'expérimenter le vrai amour conjugal. Il y a moyen, frères et sœurs, de donner son cœur à quelqu'un, un homme ou une femme, dans le cadre du mariage, et de vivre avec elle ou avec lui jusqu'à ce que la mort intervienne. Car je sais que nous vivons dans une société où nous assistons à une consommation savamment entretenue par des industriels de tous bords. Tout nous pousse à consommer, n'est-ce pas? Tout nous pousse à être tout le temps à la page. Regardez sur le marché de la téléphonie mobile, eh bien, c'est chaque année qu'il y a une marque, ou même dans la même marque, il y a tout le temps de nouvelles séries, oui ou non. Ainsi, les gens sont chaque fois obligés de suivre un peu ces rythmes. Et dès qu'un son GSM tombe en panne, soit on le fait réparer, ou alors, carrément, on va chercher un nouveau. Vous voyez, et ça, c'est au niveau matériel, mais je vous dirais que cette façon de faire, cette vision-là a fini par affecter l'homme en ce qui concerne également les choses beaucoup plus importantes, c'est-à-dire les choses spirituelles, les choses affectives. Et les gens ont tendance à consommer le mariage comme on consommerait n'importe quel produit sur le marché. Voyez-vous? Et dès qu'on n'en peut plus, ou dès qu'il y a une nouveauté sur le marché, eh bien, on se débarrasse de l'ancien pour aller sauter sur la nouveauté. Cette façon a fini, hélas, par nous affecter, par nous influencer, et pour beaucoup, dans notre société d'aujourd'hui, l'idée même de vivre pour le restant de sa vie avec la même personne paraît être une idée effrayante et insupportable. Oui ou non? Vivre avec quelqu'un pendant 20 ans, pendant 30 ans, non, c'est plus possible. voyez-vous. Mais il y a moyen, mes amis, alléluia. L'amour ne vieillit jamais. Que Dieu soit béni. Il y a moyen de vivre le véritable amour. Il y a moyen d'expérimenter l'amour conjugal. Il y a moyen, mes amis, d'aimer l'autre jusqu'au bout, de contribuer à son bonheur. Il y a moyen de trouver l'homme ou la femme à qui on va donner son cœur, et ce pour la vie, non pas pour un temps, non pas pour une année. Voyez, il n'y a pas de mariage comme ça à durée déterminée. On s'engage pour un temps. Au bout d'un certain temps, il dit, écoutez, nous nous étions convenus de vivre ensemble pendant 2 ans. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre engagement. Voilà, si nous pouvons nous séparer, voyez-vous. Mes amis, tout cela, est rendu possible par le fait que nous vivons dans une société qui a rejeté le Créateur, qui a rejeté l'auteur du mariage. Mais je vous dirais que, quoi que les uns et les autres pensent, le mariage reste une bénédiction pour l'homme. Alléluia. Et l'amour conjugal reste, mes amis, un des grands besoins de tout homme et de toute femme. Que Dieu soit béni. Nous vivons dans une société qui promotionne toutes sortes de contre-valeurs, qui fait tout, mes amis, pour saper l'image du mariage. Et dans une telle société, nous avons besoin de revenir à la parole de Dieu pour essayer de voir quel était le plan original et originel du mariage comme Dieu l'a prévu dès le commencement. Et comment nous pouvons aimer l'autre? Car l'amour, ce n'est jamais quelque chose d'acquis. Pour beaucoup, on entre dans le mariage, ben c'est fini. Non, l'amour, eh bien, se cultive, alléluia. L'amour s'entretient. Voyez. Il ne faut pas dire, ah oui, mais il est chrétien, il ne me trompera jamais. C'est un frère qui prie, qui jeûne et tout ça, et vous ne faites rien. Ou alors, eh bien, c'est ma femme, la femme de ma vie, c'est le Seigneur qui me l'a donné, ça s'arrête là. Pas de mots gentils, de mots d'amour. Et c'est comme ça que certains mariages finissent par s'autodétruire. Il y a moyen, mes amis, de connaître le véritable bonheur conjugal. Il y a moyen de réussir son mariage avec le Seigneur. Alléluia. Mais il est important que l'homme et la femme réalisent que chacun a sa part dans la réussite, dans le succès de ce projet que le mariage. Voyez-vous, il y a moyen de connaître le vrai amour. L'amour tel que nous le trouvons dans la parole de Dieu, l'amour tel qu'il est décrit dans ce passage. Un amour qui a Christ pour référence, alléluia. Et nous allons voir très rapidement la description que l'apôtre Paul fait en ce qui concerne la relation de l'homme avec sa femme dans le cadre du mariage, et cela la lumière de la relation que le Christ a avec son Église. Gloire à Dieu. Donc, en tout et pour tout, si nous voulons savoir comment aimer notre partenaire, comment aimer notre femme, notre épouse, notre mari, nous ne devrions pas regarder, mes amis, à la manière dont les gens s'aiment dans le monde. Certains couples peuvent nous inspirer. Certains mariages, par leur... Par leur réussite, peuvent, d'une manière ou d'une autre, nous servir de modèle. Mais, in fine, c'est la relation de Christ avec son Église qui devrait et qui doit rester notre modèle par excellence. Et l'apôtre Paul va utiliser cette expression « comme le Christ » lorsqu'il est question de la responsabilité de l'homme vis-à-vis de son épouse. Et par rapport à l'épouse, la parole de Dieu utilise l'expression « comme l'Église » lorsqu'elle parle de la responsabilité, de la reconnaissance active de la femme vis-à-vis donc de son mari. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc l'amour, le vrai, on peut le trouver, on peut l'expérimenter. Pourquoi j'insiste sur l'adjectif « vrai » C'est parce que nous trouvons dans notre monde une parodie d'amour. Une caricature d'amour, voyez-vous. Dans le monde, l'expression « je t'aime » ne veut plus rien dire. Pour beaucoup, « je t'aime » veut simplement dire « je veux quelque chose de toi ». Et dans la plupart des cas, je veux avoir une relation sexuelle avec toi. J'ai besoin de toi pour satisfaire mes désirs. Voyez-vous? Donc, pour beaucoup, l'amour s'arrête à ces niveaux-là. Alors que l'amour va au-delà du simple désir affectif, du simple désir sexuel. Voyez-vous? Ceci n'est pas aimer. C'est de l'égoïsme pur et simple, n'est-ce pas? Voyez? Voir l'autre simplement comme un objet dont on a besoin pour satisfaire ses pulsions ou ses désirs, eh bien, c'est de l'égoïsme et de l'égotisme. Qui rendent un très très mauvais service à l'homme. Voyez-vous? Donc, ceci n'est pas le vrai amour. Voyez-vous? C'est vrai. Dieu nous a doté des désirs. Le désir d'aimer et de se sentir aimé, mes amis, n'est pas la conséquence du péché. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu est amour. Alléluia. Donc, vouloir chercher à trouver l'âme sœur est une démarche tout à fait naturelle. Et je dirais une démarche voulue par Dieu lui-même, parce que c'est Dieu qui nous a créés avec un cœur qui est dans le besoin de donner et puis de recevoir. Dans le besoin d'aimer et de se sentir aimé. Il y a donc des désirs en nous qui sont le résultat de la volonté de Dieu pour nos vies. Dieu nous destine, mes amis, au bonheur. Il nous a doté des désirs, voyez-vous, mais l'existence d'un désir, quel qu'il soit, ne justifie pas encore sa satisfaction. Voyez-vous, il faut un cadre. Par exemple, pour parler de l'amour, il y a un cadre que Dieu a fixé, à savoir le mariage. C'est seulement au sein de ce cadre-là que nos désirs le plus intime devraient et doivent être rencontrés et satisfaits. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est seulement avec l'autre, avec son épouse ou son mari, que nous pouvons nous donner tout entier. Nos parents nous ont mis au monde, ils nous ont aimés, nous avons le devoir de les aimer également, mais l'amour que nous avons envers nos parents ne pourra jamais supplanter l'amour que nous sommes censés donner à nos épouses et à nos maris. La relation conjugale a préséance sur toute forme de rapport. Gloire à Dieu, alléluia. Donc tu ne peux pas aimer ta maman plus que ton épouse. Ou vice-versa. Ou alors aimer ton père plus que ton mari. C'est inconcevable. Si tel est ton cas, tu devrais te repentir. Mais non, il y a peut-être des choses qui t'ont poussé à te tourner davantage vers les parents parce que l'homme ne te donne pas suffisamment l'amour que tu attends. Mais ce n'est pas non plus en tournant le dos à ton mari ou à ton épouse et en se tournant de nouveau vers les parents que tu finiras par résoudre le problème. Pas du tout. Voyez-vous, c'est dans le dialogue qu'on peut résoudre ce problème. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, le désir d'être aimé, le désir de se sentir aimé, les désirs intimes, eh bien, nous ont été donnés par Dieu. Il faut savoir que la sexualité, on n'en parle pas assez, parce que dans notre société, il y a trop de tabous. Voyez-vous? Mais il faut se dire la vérité. C'est Dieu a créé l'homme et l'a doté de la sexualité. Et cette sexualité ne peut être vécue que dans le cas du mariage. Puisque non seulement il a doté l'homme de ce désir intime, de ce besoin de sexualité, mais il a en même temps prévu un cadre pour que ce désir-là soit comblé, alléluia, pour que ce besoin-là soit rencontré. Maintenant, le simple fait de se dire, bon, c'est Dieu qui m'a doté de ce désir, c'est Dieu qui m'a donné les organes qui sont les miens, quel péché y a-t-il lorsque j'utilise ce que Dieu m'a donné? On entend souvent ce genre de réflexion dans les milieux où l'éthique permissive et l'absence de toute responsabilité sont à la mode. Voyez? Là, les gens disent, mais écoutez, ce n'est pas de ma faute. Dieu m'a normalement constitué. Il y a un désir, il y a un besoin, il faut absolument que je le satisfasse. Ça ne fonctionne pas de cette manière. Vous devez savoir qu'en dehors du mariage, tout rapport intime est strictement interdit. Gloire à Dieu. Voyez-vous? Nous vous le disons, nous vous le répétons. Nous vivons non pas selon ce que les uns et les autres pensent. Nous ne vivons pas parce que tels ont décidé ou tel autre ont décidé que désormais, eh bien, le mariage ou la majorité sexuelle est désormais à partir de tel âge. Nous vivons selon la parole de Dieu. Jeunes gens, jeunes filles, gardez-vous chastes jusqu'à ce que vous trouviez l'homme ou la femme de votre vie. N'essayez pas de brûler les étapes. Vous risquez d'entrer dans le mariage complètement usé. Un chiffon. Oui ou non? Un cœur qui aura été mangé par toutes sortes de prostituées. Un cœur qui se sera comporté comme une sorte de pousse-pousse qui a eu à remorquer tout sur son passage. Vous voyez? Et quand le moment arrive d'entrer dans le mariage, c'est une loque. Vous voyez? Non. Nous devrions nous garder. Pour vous permettre de comprendre que le fait d'avoir les désirs ne justifie pas absolument leur satisfaction à tout prix et n'importe comment. Je vais prendre l'illustration de quelqu'un, d'un civil, qui un jour rentre à l'armée. Dans l'armée, eh bien, après une formation, on lui donne une arme, n'est-ce pas? Eh bien, supposons que ce nouveau militaire se dise, mais tiens, on m'a donné une arme, moi je ne l'ai pas demandé. On m'a donné une arme, et par conséquent, je dois absolument m'en servir. Donc, je vais tirer sur tout ce qui bouge. Oui. Eh bien, cet homme-là aurait des problèmes. Pourquoi? Parce que l'autorité qui lui a donné l'arme a aussi prévu les conditions dans lesquelles cette arme devrait et doit être utilisée. Oui ou non? Il en est de même de la sexualité. Oh, je brûle. Mais marie-toi. Alléluia. N'attends pas d'avoir tout. Souvent, les jeunes gens commettent cette erreur-là. Voyez-vous? Ils veulent tout avoir. Ils veulent avoir d'abord une Jeep Prado. Ils veulent avoir un appartement à la Gombée. Ils veulent avoir ceci. Et puis seulement après, on s'engage. C'est vrai qu'il y a un minimum. Parce que là aussi, il y en a qui tombent dans l'autre. Ah oui, mais le pasteur a dit qu'il faut se marier. Vous n'avez qu'une natte. Il y a quand même un minimum qu'il faut absolument remplir. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas non plus que l'autre, lorsque vous allez vous marier, arrive à la maison comme s'il arrivait ou il atterrissait dans un hôtel. Tout est là. Tout brille. Au point où elle aurait même de la peine. Na bébé, ça moquette, y'a pas tout. Ça fait du bien, mes amis, quand on part de quelque part, où vous travaillez ensemble, où vous construisez le projet, alléluia. Cela vous unit davantage. Tout mariage est un risque. Ouais. Et la vie est une suite des risques que nous prenons. Si vous ne voulez pas prendre ce risque-là, vous allez attendre longtemps jusqu'à ce que Jésus revienne. Voyez? Si vous ne vous décidez pas, ou si vous attendez l'homme ou la femme idéale, vous risquez d'attendre longtemps. Il n'y a pas, ici à la borne, des filles qui seraient des anges, c'est-à-dire aucun défaut. Des anges que Dieu nous aurait donnés. Et qui devraient être des bonnes épouses. Quand vous épousez une fille, eh bien, qui vient d'un milieu, qui a été formatée d'une certaine manière, qui a reçu une certaine éducation, donc vous devez tenir compte de tout ça. Ne regardez pas seulement l'enveloppe extérieure. Elle dit, elle brille. C'est un bois noir. Peau d'ébène. C'est bien tout ça, mais encore, il faut que le cœur suive. Alléluia. Donc, voyez-vous, Le fait que nous ayons tel ou tel autre besoin ne justifie pas absolument sa satisfaction, et ce, par tout le moyen. Nous devons savoir que Dieu a prévu un cadre, c'est dans ce cadre-là que nous devons tout faire, et enfin entrer, et puis c'est seulement dans ce cadre-là que nos besoins les plus intimes, le besoin d'aimer et de se sentir aimé, pourront être satisfaits. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons donc, il y a possibilité de s'aimer jusqu'au bout. Et ce matin, nous avons devant nous des hommes et des femmes qui ont su tenir jusqu'au bout. Alléluia. 10 ans de mariage, c'est quelque chose à l'heure d'aujourd'hui. Quand on sait qu'il y en a qui se marient le matin et l'après-midi, ça barde déjà. Il y en a qui se marient pendant même qu'ils pensent au mariage. Ici chez nous, j'espère que ce n'est pas encore le cas, mais de l'autre côté, en Europe, ils pensent déjà aux meilleurs avocats. Voilà. Donc, des amis, des copines et tout ça, leur parlent déjà, attention, tu sais, il faut être prudente et tout ça. Si jamais ça bardait, moi je connais un avocat très très efficace. Mais si vous entrez dans le mariage avec cette vision-là, tôt ou tard, vous finirez par connaître le divorce. On n'entre pas avec la pensée qu'un jour on peut divorcer. Oui, c'est une éventualité. Comme quand on prend la route, on va aussi au-devant de la mort, oui ou non? Combien de gens sont tués sur nos routes? Voyez? Et pourtant, nous prenons la route puisque nous devons nous déplacer. Alléluia. Donc, c'est un risque, mais c'est un bon risque. C'est là que nous devons apprendre à vivre le mariage avec le Seigneur. Pas seulement l'homme et la femme, mais l'homme et la femme plus le Seigneur. Que Dieu soit béni. Donc, l'amour, pour aller plus vite, dont nous avons besoin dans le cadre du mariage, cet amour-là est un amour qu'on ne peut trouver nulle part. Voyez-vous? C'est un amour avec des caractéristiques toutes particulières que nous trouvons dans le passage que nous avons lu. Évidemment, ce n'est qu'un extrait. Si vous voulez comprendre tout l'amour tel que la Bible l'enseigne, il faudra parcourir toute la Bible. Mais aujourd'hui, je prie ce texte parce qu'il est parlant, parce que ce texte en lui-même nous montre comment nous devrions assumer notre responsabilité vis-à-vis de l'autre dans le cadre du mariage, vis-à-vis de l'épouse, vis-à-vis du mari. Donc, cet amour est caractérisé essentiellement, nous l'avons lu, par le sacrifice et l'offrande. Amen. La notion de sacrifice et la notion d'offrande est au cœur de cet amour-là, d'abord au cœur de l'amour que le Seigneur a vis-à-vis de son Église, nous l'avons lu, de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous en offrande et en sacrifice. Alléluia. Donc, c'est un amour qui s'exprime, qui naît, qui grandit, qui croît, lorsque la pensée du sacrifice et de l'offrande est bien présente. Comme le Christ nous a aimés. Voyez, c'est seulement après, mes amis, ce sont les deux premiers versets, marcher dans l'amour de même que le Christ nous a aimés, s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur. Ce n'est qu'après, qu'alors on parle de l'homme et de la femme dans le cadre du mariage. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, après nous avoir présenté le vrai amour, celui que le Christ nous a manifesté, cet amour qui unit le Seigneur à son Église, cet amour qui l'a amené à s'oublier soi-même pour son épouse qu'est l'Église, cet amour qui l'a amené à se sacrifier et à s'offrir à son Père pour son Église, c'est cet amour-là qui devrait caractériser l'amour qu'il y a ou qui unit l'homme à son épouse dans le cadre du mariage et l'épouse à son mari dans le cadre du mariage. Alléluia. Gloire au Seigneur. Comme Christ nous a aimé l'Église, de même, l'homme devrait aimer aimer son nom, comment, sa femme. Et pour la femme, eh bien, la femme est appelée à se soumettre à son mari comme au Seigneur. Ah, voyez-vous, car il y a un problème avec l'interprétation de ce mot soumission, de ce concept de soumission. Vous voyez que beaucoup ont mal compris et qu'ils essayent d'interpréter à la lumière de leur culture, de leur arrière-plan, etc., et qui a conduit, hélas, à la chosification de la femme. Quand on parle de soumission, il y en a beaucoup qui pensent que la femme n'a plus de volonté. Elle est donc appelée à suivre son mari de manière aveugle. Voyez, même si c'est un bandit, ben, il faut le suivre. Pas du tout, ce n'est pas ce que cela veut dire. Il nous est dit que l'Église est soumise à Christ, oui ou non. Mais ce n'est pas une soumission aveugle. Christ ne nous écrase pas. Il ne nous réveille pas le matin, et dit, hey, pas avec une baffe, tu dois m'adorer, tu dors encore. Oui. Il ne se comporte pas de cette manière. Il nous laisse la liberté, alléluia. Nous devons choisir, et nous avons choisi de l'aimer. Et nous manifestons notre amour et notre soumission à lui par une vie d'obéissance à lui et à lui seul. Oui. Donc, tout ce qui est dit à propos de l'amour conjugal et de la responsabilité de l'homme et de la femme dans le cadre du mariage, tout cela, mes amis, doit être compris à la lumière d'Éphésiens 5, versets 1 à 2. Si nous n'avons pas compris cela, nous aurons des difficultés énormes à connaître véritablement l'amour conjugal tel que Dieu l'a conçu et à le vivre. Voyez ? Car l'amour, comme je l'ai dit, ce n'est pas simplement l'oxygène du royaume de Dieu. Mais l'amour, c'est aussi l'oxygène conjugal. Oui ou non ? L'amour, c'est aussi le carburant dont nous avons besoin pour que notre voiture conjugale continue à avancer. Quand il n'y a plus de carburant, vous avez beau faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez être animé de bonne volonté, descendre et commencer à pousser la voiture. Tant que vous êtes sur une pente, ça peut marcher, oui ou non. Hein? Vous poussez un certain moment, l'inertie fait le reste. Vous montez dans la voiture, voyez, et vous regardez, c'est chouette et tout ça, mais il n'y a pas de carburant. Jusqu'à ce que vous arriviez dans le fond, et là, de nouveau, il faudra descendre et pousser. Et quand vous aurez à escalader une pente, et là vous rendrez compte que c'est encore beaucoup plus difficile, n'est-ce pas? Non, nous avons besoin de ces carburants-là, que l'amour. Mais cet amour doit être compris. Et pour mieux comprendre l'amour conjugal, nous ne devons pas regarder à ce qui se passe dans les séries télévisées. Nous ne devons pas regarder à la manière dont tel ou tel autre homme aime son épouse ou vice-versa. Comme je l'ai dit, cela peut nous inspirer, mais notre modèle, mes amis, pour connaître les vraies caractéristiques de l'amour conjugal, nous devrions regarder à l'amour que Jésus a pour son Église. Alléluia. Comment Jésus aime-t-il son Église? Eh bien, nous l'avons vu. Il n'a pas hésité à donner sa vie. Et dans le vrai amour, dans le mariage, la notion de sacrifice, eh bien, devrait être vécue. C'est parce que cette notion a été complètement évacuée de la vision que les gens ont du mariage qu'il y a de plus en plus de divorces. Dès qu'il y a une contrariété, une contradiction, dès qu'il y a divergence de vue, il y a, j'estime que nous ne sommes plus faits l'un pour l'autre. Au lieu de se battre dans la prière, alléluia, au lieu de résister, on opte pour la solution facile, c'est-à-dire ouvrir la porte et s'en aller. Oui, on va aller. On va courir après une autre femme. Mais croyez-moi, vous ne trouverez pas mieux. Vous voyez? On va se donner à un autre homme. Dans un premier temps, il va vous couvrir de belles mots, de belles phrases. Je n'ai jamais connu d'autres femmes qui soient extraordinaires comme vous, etc. C'est d'ailleurs une erreur. J'aurais aimé que nous nous rencontrions quand nous étions jeunes. Faux! Voyez-vous, tout ça c'est des blabla, c'est des paroles en l'air, c'est simplement pour vous flatter. Parce que dans la tête de beaucoup, eh bien aimer, c'est, je veux recevoir quelque chose de toi. Voyez, Je dois d'abord, dans le cadre du mariage, chercher le bonheur de l'autre. Et l'autre doit chercher mon bonheur. J'ai toujours l'habitude de dire, quand j'interviens dans des cérémonies nuptiales, de dire aux gens, ne cherchez pas le bonheur, ne courez pas le bonheur, n'entrez pas dans le mariage pour être heureux. Non! Mais entrez dans le mariage pour rendre heureux. Alléluia. Ça change tout. C'est-à-dire, vous devez travailler au bonheur de son épouse. Vous devez la combler. Vous devez lui dire des mots gentils. Vous devez abandonner votre tradition. Chez nous, les gens, comment, ils sont gênés, ils ont de la gêne, des scrupules, même pour tenir sa femme en public, on regarde à gauche, à droite. Mais, on a été mal habitués. Les choses ont beaucoup évolué, nos mamans ont beaucoup souffert. Hein, avec des papas qui se comportaient comme des talibans. Nos mamans ont souffert, mais Dieu a fait grâce. Beaucoup sont restés. Simplement parce que, il fallait rester pour les enfants. Voyez? Et beaucoup n'ont jamais connu le vrai bonheur conjugal. Mais nous avons la grâce, nous, de connaître la vérité. Alors vivons selon la vérité. Aujourd'hui, dis à ta femme, je t'aime. C'est pas un problème. Alors vous trouvez des filles, ah non, chez moi, on m'a pas dit ça. Eh bien, tu dois changer. Alléluia. S'il ne te dit pas « je t'aime », à qui d'autre il le dirait? La parole a de la valeur. Vous savez, c'est la parole qui singularise l'homme. L'animal peut être beau. Oui ou non? L'animal peut présenter toute la beauté qui soit, remplir tous les critères de beauté, mais il reste un animal. Il ne pourra jamais mettre de mots sur ce qu'il pense. Oui ou non? Il va simplement agiter la queue. Il va simplement boire. J'ai un chat à la maison, je sais ce que je dis. Voyez? Et quelquefois je me dis, mais s'il pouvait me parler, qu'est-ce qu'il me dirait à l'instant? Alors utilisez la parole, non seulement pour prêcher, parce que quelquefois les pasteurs se comportent dans leur foyer comme uniquement des conducteurs spirituels. Je suis pasteur. Alors tu trouves des femmes des pasteurs qui... Non, c'est anormal. La Bible nous dit, c'est une partie de vous-même, votre épouse. C'est pas moi. Jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair. Tu ne peux pas mépriser ta propre chair. Tu honores ton corps, oui ou non? Tu vois, j'ai été me faire coiffer. Hein? Vous êtes tous bien habillés. Vous êtes regardés dans le miroir. Hein? Pour travailler ce corps, c'est une bonne chose. Et la Bible nous dit que l'homme aime sa femme comme... Alors, comme tu te regardes, tu t'admires. En veillant que tu ne bascules pas dans le narcissisme. Hein? Voyez, que vous ne tombiez pas amoureux de vous-même. Vous connaissez l'histoire de Narcisse, hein? Il se regarda dans une fontaine, il se vit et s'admira. Il s'admira tellement qu'il finit par mourir. Voyez? Mais un homme normal, eh bien, il est sûr de lui. Alléluia. Quand il se regarde dans le miroir, il rend grâce à Dieu, Seigneur, je te bénis, je suis beau. C'est comme ça. Il ne faut pas souffrir de complexes. Oh, je ne suis pas grand. Par rapport à qui? Je suis petit. Par rapport à qui? Voilà. Donc, rendez grâce à Dieu pour ce que vous êtes. Ta femme t'a aimé comme tu es. Alors, ne développe pas de complexes. Pas tu rencontres des collègues qui vont tout le temps au fitness. Et quand tu te regardes, dis, ah. Elle t'a aimé. Bon, ça veut dire que tu ne dois pas non plus te laisser aller. En disant, non, elle est contrainte de m'aimer. C'est là que nous devons travailler. Jésus veille sur nous, oui ou non? Il fait tout. Il a tout prévu. Voyez? Eh bien, nous aussi, nous devrions tout faire. Gloire au Seigneur. Donc, nous voyons que de deux côtés de l'amour, c'est-à-dire l'amour entre le Seigneur et l'Église, ainsi que l'amour de l'homme envers sa femme et vice-versa, eh bien, nous voyons qu'on peut établir un parallélisme et tirer des leçons qui pourront que enrichir notre relation conjugale si nous sommes mariés, mais aussi nous préparer à ce que lorsqu'un jour nous entrerons dans cette relation conjugale, eh bien que nous puissions vivre pleinement cet amour. Qu'est-ce que cela implique pour la relation conjugale? Très rapidement. Eh bien, que l'homme est appelé à se donner à sa femme, comme le Christ s'est donné à son Église. Il faut se donner à sa femme, voyez? Pas une partie, voyez? Pas une partie, entièrement à sa femme, voyez-vous? Aucune once en nous, au niveau du cœur, je sais pas, ne devrait nous appartenir ou appartenir à nos parents. Il dit, bon, dans mon cœur là, il y a la place de ma femme, mais aussi je réserve une partie pour ceci. Et nous devons nous donner entièrement. Maintenant, cela ne veut pas dire que nous ne devrions plus penser à nos parents. Voyez-vous? Il faut toujours éviter les extrêmes. Mais, encore une fois, la relation conjugale a préséance sur toute forme de relation. Ne mettez jamais votre épouse sur le même pied d'égalité que vos collègues. Voyez? Votre femme est une partie de vous-même. Vous ne pouvez être heureux que dans la mesure où vous la rendrez heureuse. C'est comme ça qu'il y a des gens qui sont malheureux, parce qu'ils sont égoïstes, parce qu'ils sont déformés par la tradition, parce qu'ils vivent avec une vision tronquée du mariage, et résultat, ils ne sont pas heureux. Ce sont des gens irascibles, toujours une grosse tête, ils tirent leur visage. Voilà, il n'y a pas quelque chose qui ne va pas dans le couple. Et souvent, ils jettent la responsabilité sur la femme. Oh, ma femme fait ceci. Oh, ma femme ne fait pas cela. Commence d'abord par te regarder toi-même. Est-ce que tu fais ce que tu reproches à ta femme? Ah. L'homme est appelé à se donner à sa femme qui devient son épouse. Et dans la fidélité, à l'aimer et à prendre soin. Alléluia. Prendre soin. Voyez. Ça veut dire que quand vous êtes en ville, vous vous baladez là, si vous passez devant une boutique, une vitrine, il y a quelque chose. Mais, Hadia, ça va faire plaisir à ma femme. Vous achetez. À l'anniversaire, vous ne bougez pas. Ah oui, mais dans notre tradition... un foulard, fais-le. Si la tradition, mon frère et ma sœur, risque d'agir comme une force de pesanteur qui va vous tirer vers le bas, alors que l'amour est quelque chose qui est appelé à avancer, à croître. Alléluia. Donc, offre-lui quelque chose. Et quand tu arrives, il y a de plus en plus de femmes qui ont vécu en Europe. Il ne faut pas fermer les yeux là-dessus. Ah oui, mais elle se comporte comme une Française. Mais tu l'as épousée, non? Tu savais qu'elle a vécu en France. Eh bien, là où elle a vécu, les fleurs représentent quelque chose. Même ici chez nous, regardez, il y a les fleurs, non? Prenez, allez offrir à votre épouse. C'est un petit rien, mais qui peut faire beaucoup. Alléluia. De même, les femmes aussi. Vous passez un gilet et dites, ah, ça peut faire plaisir à mon mari. Voyez? Et puis vous l'amenez. Mais quand vous arrivez, vous la regardez au loin et dites, ah, c'est quoi encore ça? Mais vous la découragez. C'est quoi ça? Moi, je t'ai demandé de m'acheter ça. Et après, vous vous étonnez qu'il y ait des tensions, que plus rien ne marche. Nous devons changer. Alléluia. Nous devons revenir au commencement de tout. Lorsque Dieu a créé l'homme, et puis il lui a suscité une femme. Et quand Adam l'a vue, qu'a-t-il dit? Enfin, voici l'os, la chair de ma. Et Paul dira plus tard, que celui qui aime sa femme s'aime. Donc, revenons à la source. Rejetons tous les éléments de la tradition qui nous mettraient en porte-à-faux avec le mariage tel que le Seigneur l'a défini. Les choses évoluent. Si vous voulez rester dans ta tradition, eh bien, vous restez dans votre tradition plutôt. Vous devriez aussi vous débarrasser de votre geste. Hein? Là, au village en Gandajika, vous aviez ça? Dites-moi, vous aviez ça? Et pourtant, aujourd'hui, vous l'avez. Alors, ne dites pas la tradition seulement lorsqu'il s'agit de votre femme. Vous voyez? Et il y en a même qui aiment plus les enfants que leurs épouses. On dit, ah non, attention, lui porte le nom de ma mère. Vous voyez? Donc, nous devons, l'homme doit se donner à sa femme, qui est son épouse, et dans la fidélité, eh oui, quand on aime, on ne partage pas, hein, en ce qui concerne l'amour conjugal. Vous ne pouvez pas aimer votre femme autant que vous aimez votre petite sœur, vous aimez votre consœur, je ne sais qui, pas du tout. Encore une fois, l'amour que nous avons pour nos épouses devrait être au-dessus de tout. L'amour que nous avons pour nos maris devrait être au-dessus de tout. Gloire au Seigneur. L'homme a besoin de donner son cœur à une femme, non pas à deux. Tu entretiens une relation irrégulière. Tu es en train de te suicider. Oui, parce que ce que tu fais là, tu le fais contre ton propre corps. Tu es en train de te détruire. L'homme se donne à une seule femme, pas à deux, à trois, à quatre femmes. De toute façon, il n'a qu'un cœur. Oui ou non? Alors, tu ne peux pas donner un cœur à quatre femmes. Voyez? Et ce qui est terrible, c'est qu'il y a des... Enfin, je ne sais pas, la femme croit facilement le mensonge que la vérité. C'est comme ça qu'on a vu certains aventuriers dans nos quartiers embobiner de belles filles, les embarquer. Mon père a été nommé ambassadeur en Chine. On a connu ici. Hein? Ouais, on a connu ici. Moi, je me souviens, un jeune homme, nous étions tous jeunes à l'époque ici, qui avait perturbé une jeune sœur ici. Hein? Ouais. Il avait entraîner le gens dans le mensonge, dans la tromperie, son père était ceci, son père était cela, il avait des biens. Et... Ce n'est pas ça. Si vous voulez que l'autre vous aime parce que vous avez des biens, vous êtes malheureux. Il faut qu'il vous aime pour ce qu'il est, ce que vous êtes. Voilà, n'essayez pas d'inventer. Dites, voilà, je suis ceci, je viens d'un bidonville. Oui ou non? Je viens d'un bidonville. C'est tout, ce n'est pas un problème. Moi, je grandis dans un bidonville, où est le problème? Vous pensez qu'il y a des différences avec qui, à l'époque, habitait Kalina, ici à la Gombe. À l'époque, c'était quoi? Kalina. Voilà. Quelle différence? Vous pouvez naître en brousse et vous retrouver un jour sur le trône d'un pays. Alléluia. Tout comme vous pouvez naître à la maternité Reine Fabiola à Bruxelles, je ne sais pas où, et vous retrouvez un jour, terminer sa vie sur une nappe. Donc vous voyez ce Dieu qui donne, ce Dieu qui... Alors ne soyez pas complexés, voyez, sur vos origines. Il n'y a pas de problème. Si vous êtes passé par là, d'ailleurs, les femmes aiment ça, les frères, ceux qui disent la vérité. Vous étiez pousse-pousseur, dis seulement, à un moment, vous êtes que pour payer vos études, vous avez fait le pousse-pousse. Ce n'est pas un problème. Hein? À l'époque, en Europe, on le faisait, des petits boulots en gauche à droite pour payer ses études. Vous voyez, on allait laver les cafés tôt le matin, des restaurants pour avoir quelque chose. Ce n'est pas un problème. Mais c'est passager, non? Bref, l'homme doit se donner à sa femme. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et la femme, en réponse, est appelée donc à une reconnaissance active, à une vie en communion avec son mari, à une relation de confiance et d'amour. Alléluia. L'homme comme la femme doivent travailler à leur amour conjugal, voyez-vous, mais aussi une femme pour un homme, car la femme n'a qu'un, mais il y a aussi d'autres femmes qui se comportent comme de véritables omnibus, qui s'arrêtent à chaque gare, À chaque arrêt de bus, on remonte tout ce qu'on veut. Voyez, comme il y a des hommes, voyez, qui se comportent comme le vrai esprit de mort là. Vous voyez nos, voilà, des 107 là. Eh bien, ces gens-là s'arrêtent partout, hein. Ils prennent tout. Ouais. Même quelqu'un qui a déjà un fardeau, il s'arrête. Allez, ils embarquent. Et il y a des hommes qui se comportent comme ça, mes amis. Nous devons arrêter. Un homme pour une femme. Une femme pour un homme. Ces histoires de polygamie, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Tu dois enlever cela de ta tête. Comme le Christ, pour terminer. Comme le Christ, la Bible nous dit, eh bien, cette expression est utilisée pour décrire la responsabilité de l'homme vis-à-vis de sa femme. Sa responsabilité envers la femme. Comme le Christ, alléluia. Voilà donc la référence. Et comment le Christ a fait, comment il agit vis-à-vis de son Église? Eh bien, le Seigneur assume sa fonction de responsable de l'Église, oui ou non? Nous aussi, nous devons veiller. Nous devons assumer notre responsabilité vis-à-vis de notre épouse. Le mari, comme le Christ qui s'est donné à son Église, le mari se donne à sa femme dans l'amour, avec tout ce que cela entraîne. Le mari, comme le Christ, est uni à sa femme dans une communion profonde et il travaille à la croissance de cette communion. Alléluia. L'amour est appelé à grandir. Et croyez-moi, c'est avec des petites choses qu'on agrémente l'amour. Alléluia. N'attendez pas d'être actionnaire dans la nouvelle compagnie Congo Airways pour finalement commencer à faire du bien à votre épouse. Même avec un rien, un petit rien, eh bien, cela lui rendra ou la rendra heureuse. Vice-versa, alléluia. Donc, mes amis, pour l'homme, c'est Christ qui reste notre modèle dans sa relation avec l'Église. Et pour la femme, eh bien, l'Église, eh bien, dans sa soumission à Christ, reste un modèle pour la femme. Et quand on dit, et je vais terminer par là, quand on dit que la femme doit se soumettre, eh bien, il faut, mes amis, replacer la notion de soumission dans le contexte biblique. La soumission, comme je l'ai souligné un tout petit peu, ne veut pas dire que la femme, eh bien, est appelée à être écrasée. On a entendu des témoignages où certains hommes utilisent ce verset comme un fouet pour ramener leur femme à la raison. La femme essaie de dire, la Bible dit, j'ai même entendu un homme, un païen, qui disait, oh, attention, la Bible dit, femme, soyez soumise. Alors on utilise ça, mes amis, comme un fouet pour chicoter sa femme. Dès qu'elle veut revendiquer quelque chose, sois soumise. Hein. C'est pas moi, hein, c'est la Bible. Non, mais la soumission ne veut pas dire que la femme doit être écrasée. Voyez-vous, cela ne veut pas dire que la femme ne peut suivre que l'homme. L'homme n'est pas parfait. L'homme peut faire des choix qui n'ont rien à voir avec Dieu, oui ou non. Il choisit, non, j'ai entendu une voix que je dois devenir prochainement le gouverneur de l'Équateur. Partons. Vous n'allez pas dire, ah oui, mais la Bible dit, soyons soumises. Réfléchissez. Dites à votre mari, mon mari, est-ce que tu es vraiment sûr? Parce que pour être gouverneur, il faut être élu. Cette voix qui t'a dit là, est-ce qu'elle t'a dit que tu allais être élu? Voilà. Ou c'est une vision, voyez. On aide l'autre à comprendre. Ouais. Donc, cela ne veut pas dire que la femme doit rester à la maison. Attention. Ouais. Et je bénis le Seigneur pour nos sœurs qui travaillent. Voyez-vous? Mais cela non plus ne devrait pas vous amener à croire que vous devenez des demi-hommes. Voilà. Vous assumez votre féminité. Alléluia. Vous restez femme tout en travaillant. Car c'est en restant femme que vous restez ce que Dieu a voulu que vous soyez. N'essayez pas de vous comporter comme des hommes. Vous voyez certaines femmes, je ne sais pas si dans le passé, elles avaient subi, je ne sais pas, des sévices ou quoi là. Dès qu'elle a une responsabilité, eh bien les hommes, il faut absolument les traîner dans la boue. Elle doit faire sentir aux hommes que c'était la chef. Quoi? Justin? Et tu me l'appelles maintenant. Non, il ne faut pas non plus verser dans cet excès d'autoritarisme. ou de machiavélisme, tout ce que vous voulez. Donc, cela ne veut pas dire que la femme est personnellement inférieure à l'homme. Non. L'homme et la femme, devant Dieu, sont... Le Seigneur a payé le même prix, et pour l'homme et pour la femme. Or, c'est le prix qui détermine la valeur. Il n'est pas mort une fois pour l'homme, en souffrant beaucoup, et puis après il revient et dit, bon, pour la femme, comme elle est inférieure, au lieu que je monte à la croix, je vais mettre juste mon pied. Pas du tout. Il est mort pour le deux à la croix, alléluia. Ça montre que et l'homme et la femme, devant Dieu, nous sommes tous égaux. Cela ne veut pas dire que la femme est la propriété de l'homme. Ce n'est pas sa chose. Vous voyez, c'est une personne qui mérite qu'on l'estime, qu'on l'aime, qu'on la respecte. Alléluia. Et là aussi, ses désirs. Si toi tu aimes le rouge, elle aime le violet, mais laisse-la. Elle met le violet. Toi, tu aimes le rouge parce que tu es communiste. Mais garde ton communisme. C'est tout. Laissez-la mettre autre chose. Ah, moi, je n'aime pas ça et tout ça. Oui, tu peux le lui dire avec amour. Chérie, fais-moi plaisir. Mets un peu le vert parce que je suis écolo. Voilà. Mais si c'est une femme responsable, elle te dira, oui, chérie, mais je ne veux pas m'habiller en vert du 1er au 30. Laisse-moi varier. Voyez, bref, la femme, au niveau de la soumission, eh bien, cela ne veut pas dire qu'elle est sa chose, qu'elle est... non, l'homme et la femme, devant Dieu, sont là. Chacun a sa part, sa responsabilité dans le cadre du mariage. Alléluia. Oui, il y a moyen d'aimer l'autre et de vivre pleinement le mariage. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Que Dieu soit béni. Très rapidement, je vais voir un peu mon... Je vais demander à Papa Karenga de venir. Ah oui. D'abord les offres.